Le Max Sport avec Loïc Colombier.
Et bonsoir, chers amis sportifs, bienvenue à l'antenne de Radio Albigès pour votre Max Sport du 8 mars 2019. Aujourd'hui, au sommaire, nous retrouverons nos breaking news habituels avec du vélo et du foot. Alors, côté vélo, on aura un briefing fait par notre ami Le Borgne sur le Grand Prix d'ouverture Reva. Et en foot, on aura une breaking news assez importante concernant la SPDT football de l'Albigeois, puisque le match de dimanche, le déplacement à dimanche à Metz, a été tout bonnement annulé, puisque le club lorrain, le club messin, avait des terrains soi-disant impraticables. Mais on fera un peu le point, un éclaircissement sur ces deux sujets en fin d'édition. Mais bien sûr, pour commencer, on va axer ce Max Sport sur le match que vous pourrez suivre en direct sur Radio Albigeois, samedi à 18h45, entre le Sporting Club Albigeois, nos abeilles jaunes et noires, et l'US Marmande pour le compte de la 19e journée de Fédéral 1, avec mon acolyte Didier Rovellat, puisque Vincent Clément ne pourra pas nous accompagner exceptionnellement, je vous rassure. On espère pouvoir vous narrer encore une fois une belle prestation du Sporting Club Albigeois, hein, avec peut-être pas 50 points comme... la semaine dernière, parce que bon, le match était un peu décousu, mais sûrement avec une belle opposition. Parce que face à Albi, les Marmandais qui ont blackboulé les Nafartars, comprenez les gars de Nafarroa 43-19 le week-end dernier, et qui sont en recherche de gros points pour leur mano à mano avec l'ASV Lavore, ben, ces Lot-et-Garonnais vont venir avec de grosses ambitions. Ils sont actuellement 6e ex aequo avec les Vorins, comme on vous le disait, et donc aux portes du manoir, leur objectif de la saison, c'est-à-dire les phases finales pour les équipes, on va dire, pas de seconde zone, mais qui sont juste en dessous des gros calibres qui souhaitent monter en Pro D2. Une bonne nouvelle pour les Albigeois qui ont un besoin, qui sont en quête d'une adversité de haut rang, voire de haut vol, à l'aube des phases finales, phase finale d'accession pour la Pro D2 côté Albi. Allez, on va aller faire notre petit tour habituel dans le petit monde des... Et oui, samedi, les Black and Yellow seront sortis et ça sera l'avant-dernier match au stade municipal. Enfin, pas tout à fait, puisque on sait déjà que le Sporting sera en quart de finale, donc on aura droit au minimum à un troisième match, voire au maximum à un quatrième en demi-finale si d'aventure le Sporting arrive à se qualifier, arrive à aller tutoyer les cieux de cette Fédéral 1. Mais là, pour les phases régulières, c'est l'avant-dernier match, puisque... l'ultime match au Stadium sera une apothéose, le derby face aux champions de France Vorin. Mais en attendant, c'est Marmande qui débarque, comme l'a dit un supporter, les vendeurs de tomates. Enfin, il faut faire attention que les vendeurs de tomates ne nous blackboulent pas comme ils ont fait le week-end dernier dans leur entrée, et que le Sporting ne fasse pas un zeste de relâchement après la cavalcade, et c'était de rigueur avec le carnaval, face à Anglette. Alors Arnaud Mella, un bon père de famille, on va dire, parce que c'est une grande famille, le Sporting Club Albigeois, a décidé de peu changer ses plans. Il avait annoncé qu'après Bagnères de Bigorre, il resserrerait à 25-26 joueurs le groupe pour se mettre en mode phase finale. Là, au vu du déroulé qu'il y a eu contre Anglette, un match où les joueurs du Sporting ont porté haut les couleurs, mais où en face il n'y a pas eu une grande adversité, il s'est décidé à faire un brin tourné. Et puis comme vous l'entendrez tout à l'heure dans sa conférence presse, il y a eu quelques blessures qui sont venues faire péricliter ses plans initiaux. Donc la composition des 15 guerriers albigeois qui va affronter Marmande est la suivante. En première ligne, elle est inchangée par rapport au dernier match, puisque ce sera le bûcheron Garmozin, Bastien de Dieu, qui sera pilier gauche, avec à droite son pendant Patrick Touetou, et en talonneur Arnaud Feltrin. Le capitaine Mathieu André sera bien sûr accompagné, et là il y a un petit changement, de Jérôme Dufour, hein, un des joueurs qui tape dans l'œil de nombre d'entraîneurs actuellement, puisqu'il a un gros volume de jeu pour une seconde ligne. C'est vraiment l'archétype du seconde ligne moderne. Et ce Jérôme Dufour, je pense qu'en phase finale, il va faire du mal, il va casser quelques reins dans ces phases finales qui vont voir l'intensité monter d'un cran, voire de deux. En troisième ligne, Vincent Calas, qui était en feu la samedi dernier, qui a mis deux essais, qui a surtout été dans le jeu excellentissime, sera accompagné du jeune Paul Faré, le petit chouchou de notre ami Big Moustache Didier Rovellat. Et Paul Faré, c'est la petite pépite USA qui est couvée par... au début de son formation, maintenant par Arnaud Mella et tout son staff, et il sera accompagné du vice-capitaine en troisième ligne centre qui sera William Wetton. La charnière sera la suivante, Thibaut Bisman, accompagné de Jérémy Russell, qui lui aussi est dans un mano à mano avec Kevin Boulogne. La concurrence saine qu'a amené Kevin Boulogne a permis à Jérémy Russell de passer un cap. On l'a vu, maintenant toutes ses entrées ou toutes ses prestations, comme celle de Bagnères, sont plus abouties qu'en début de saison. Preuve que une concurrence saine peut être que positive. Sur les ailes, on retrouvera Thomas Lasselle d'un côté. Et de l'autre côté, une personne que ça nous fait plaisir de voir revenir, Louis de Crop, le jeune Louis de Crop, qui s'était blessé à l'aube des fêtes. Il revient et on l'a croisé hier tout sourire avec la banane à l'entraînement. Et je pense qu'il va nous sortir une grosse prestation. Et Louis de Crop est un joueur qu'affectionne beaucoup Arnaud Mella. Les centres seront composés de Toux Wassinibu et de Lucas Vaccaro. Là, ça va être aussi du massif, du costaud entre le taureau méditerranéen et le massif ilien. Je pense qu'en face, ils vont commencer à claquer les dents rien qu'à entendre l'évocation de leur nom. Et à l'arrière, on aura notre ami Benoît Sicard qui sera là à la relance dans un poste qui la fonctionne particulièrement. Les entrants seront les suivants. Swan Cormenier, Romain Casals, de retour de blessure, Moshe Nessid, lui aussi sorti de l'infirmerie, Tounou Tavalea, qui a fait un petit tour sur le banc après trois matchs de round au vol, Laurent Magnaval, que vous entendrez tout à l'heure en interview, une longue interview grand format, où Laurent Magnaval nous donnera son point de vue, accompagné de Keke Boulogne, alas Kevin, bien sûr Boulogne, qui va essayer encore de grappiller du temps de jeu pour reprendre le rythme qui était le sien avant son arrêt médical forcé d'un an et demi. Kevin, il a repris, comme vous l'avez su, début janvier, et il est en recherche de rythme, de temps de jeu, pour que dans les phases finales, il puisse être une des armes fatales du Sporting Club Albigeois. Le 22e homme sera Benjamin Caminati et le 23e Zaza Navozashvili. Alors on va vous donner aussi les 24e et 25e hommes, ce que j'appelle souvent en marge de la patrie ou en réserve de la patrie. Ça sera Gaëtan Bertrand, un des vice-capitaines, et Loums Tafili qui seront là pour, en cas de pépin dernière minute, pallier un potentiel forfait. Alors on ne va pas palabrer des heures et des heures sur ce match, on va aller à l'essentiel. Mieux vaut un bon schéma qu'un long discours. Donc hier, il y avait conférence de presse qu'on a fait bien sûr à micro partagé avec nos confrères à 100%, Laurent Batigne, et avec nos amis du comité d'animation du SCA, et Alain Murat entre autres, qui anime et écrit sur le site des bénévoles. Et bien, on va vous faire écouter la conférence du berger Bigourdan d'Arnaud Mella.
Là, on finit un peu, je leur avais dit que dans ce mois de février-mars, là, on allait faire le tour de l'effectif et finaliser la sortie de ça. Donc après, l'équipe qui va s'engager sur le match de Saint-Jean-de-Luz sera proche de celle des phases finales. On va partir sur un groupe plus resserré de joueurs, donc il y aura encore des rotations parce qu'on ne pourra pas faire tous les matchs, mais les rotations seront beaucoup plus serrées, quoi.
Cette équipe de Marmande, tu peux nous en dire un mot? Quel est ton regard un peu sur leur saison? Ils ont fait un gros carton le week-end dernier.
C'est une équipe qui est vraiment en dents de scie. Donc ils sont passés à côté de leur match en Angleterre. Et là, ils ont sorti une copie de haut niveau contre Nafarrois, avec un Nafarrois qui n'a rien lâché jusqu'au bout. Ils en ont pris 45 à 50 en rien lâchant, en jouant de partout, alors sûrement par moment de trop. Mais Marmande, d'une équipe déjà qui a un 10, qui a joué un top 14, donc qui a une occupation, qui a une gestion sur le terrain qui est de haut niveau, c'est Mieres, avec beaucoup de densité physique. Hein, ils ont un paquet de devant qui est très lourd et très dense. Et puis après, ils ont un milieu de terrain avec un petit 12 au Tao qui est très piquant en défense et même en attaque. Voilà, ils ont une équipe assez complète. Alors après, voilà. Comment ils vont être mentalement chez nous, je pense qu'ils seront prêts parce que comme ils se sont fait secouer anglais le week-end avant, mais ils vont vouloir enchaîner de bons résultats. Maintenant, voilà, il faut qu'on prenne ce match par le bon bout, être sérieux. Il devait pleuvoir, puis finalement ça devrait s'arranger, donc tant mieux pour nous. Et j'espère qu'on va arriver à au moins rendre une copie du même calibre que celle du week-end avant.
Tout le mal qu'on peut souhaiter au Sporting quand on voit le programme, c'est-à-dire Tyros, Lavoir, Marmande, des équipes qui ne sont pas encore qualifiées du manoir, c'est que ces équipes arrivent avec l'agnac, parce qu'on l'a vu un peu Anglet sans manquer respect à Anglet, ils étaient venus un peu en tong et c'est pas le top pour préparer les phases finales.
Ouais, bien sûr. Après, je pense qu'Anglet, ils n'avaient pas trop fait tourner non plus, même si mentalement ils ont dû un peu relâcher, sûrement. Après, quand tu as gagné à la maison avec 50 points, tu as relâché un peu. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on va avoir des matchs à venir particuliers, parce que comme tu l'as dit, des gens qui jouent la qualif et une équipe qui va venir pour faire un derby, donc qui va être là aussi. Voilà, nous, on a montré un bon visage et puis de faire les choses avec sérénité comme on a su les faire le week-end dernier.
L'objectif, c'est aussi de bosser ces phases finales, bosser les plans de jeu, la tactique, etc. Même s'il faut adapter, bien sûr, à l'équipe en face. Mais c'est ça, les prochains matchs, c'est ce qu'on va voir du Sporting.
Ouais, ce qu'il faut, oui, c'est ça, un peu. Mais bien sûr, on a tous l'idée de bien jouer en phase finale. Mais c'est surtout le plan de jeu de la phase finale. On verra l'équipe qu'on aura en face. Ça sera totalement différent entre le jeu qu'on produira sur un Roval, si c'était un Roval, si c'était un Rouen. Ça sera totalement différent. Mais nous, il faut qu'on continue à peaufiner nos lancements, notre circulation, notre circulation offensive sur le projet de jeu, notre rééquilibrage défensif, parce que encore, ça fait un an et demi qu'on est dessus, on arrive à se retrouver de temps en temps, une fois, deux fois par match, un peu en danger, donc il faut continuer. Mais là, je maintiens l'impression, c'est juste, non, mais c'est. Je le rappelle, le mois de janvier qu'on a passé, qu'on s'est fait chier. Hein, donc. Il y a du soleil, les oiseaux chantent, c'est le moment de se faire plaisir sur le terrain. Je pense que le week-end dernier, ils en ont pris. On a vu aussi le public qui commence un peu à revenir. Il y a un peu de communion, il faut continuer à engranger de la confiance. Le rugby, tout le monde travaille dur. Après, il y a un petit côté positif, plus confiance qu'il faut toujours maintenir en éveil. Et c'est ça qui fera la différence à la fin. Créer un groupe, créer une équipe. Donc ça se fait dans la victoire. Donc il faut continuer à engranger des points, gagner et rassurer tout le monde. Et eux aussi qui se rassurent.
Alors, un des paradoxes, parce que tout le monde pensait cette année que le Sporting soit qualifié, c'est que le week-end dernier, la qualification était de la poche. Ça n'a pas été trop claironné parce que ça allait tellement de soi. Mais bon, bien sûr, il y a les adversaires, les futurs adversaires qui ont un regard bien plus porté sur le Sporting maintenant. Et j'imagine bien sûr que le Sporting a aussi son regard qui se tourne vers les potentiels adversaires en quart de finale. Pour l'instant, c'est Bourgoin et ou Nice qui tiennent la corde. Qui c'est que tu préférerais des deux et quelles sont les différences entre ces deux équipes pour toi?
Ah, c'est. Déjà, qui je préférerais? Je sais pas. Je sais pas, Bourgoin, c'est un endroit un peu mythique du rugby, donc moi j'adore aller jouer à Bourgoin. Bon, je ne joue plus, donc on va s'en passer, mais c'est un endroit que j'adorais aller, donc pourquoi pas Bourgoin. Après, c'est une équipe qui a des ressources, qui a quand même encore des joueurs de niveau au-dessus, donc qui est assez dangereuse, qui court caché depuis un moment parce qu'on ne les a pas entendus une fois de la saison, pas un média à parler d'eux pour les phases finales, donc enfin, au moins pour la montée. Après, à Nice, tout le monde en parle un peu. C'est une équipe qui est un peu différente, qui a une bonne mêlée, avec des joueurs d'expérience aussi, avec un joueur qui joue chez nous, qui leur cale pas mal la mêlée, c'est Cacabert, là. Ils ont un bon lanceur en touche, donc une conquête très sereine. Voilà, c'est deux équipes un peu différentes, mais après, à choisir. Par contre, je préférerais quand même avoir le choix entre eux plutôt qu'une équipe et une autre poule, donc...
Parce que là, ils sont premier deuxième, là, Bourgoin.
Non, ce serait. C'est Dijon.
Dijon qui est là.
Oui, qui est premier, mais premier, deuxième.
Ils sont serrés, ouais.
Deuxième et troisième, ils se mangent Bourgoin et.
C'est Blagnac,
Bourgoin. Oui, c'est ça, oui. Ah oui, donc deuxième.
Ouais, Nice en prendrait le deuxième.
Tu peux prendre aussi
Dijon.
Saint-Jean de Luz.
Dijon, il y a encore 15 points. Il y a Dijon qui peut faire deux faux pas. Et...
Dijon, ils sont encore dans le viseur. De... Ouais, ouais, c'est encore envisageable. Là-bas, c'est une poule assez serrée, donc rien n'est joué. En plus, on voit quand même qu'il y a... assez homogène comme poule. C'est Macon qui a été gagné à Chambéry, il y a tout le temps une petite surprise, donc ouais, il peut y avoir une surprise encore, rien n'est joué chez eux.
Et puis l'année dernière, on avait vu en phase finale, on était tombé sur Filou et Richard Hill qui avaient fait un peu d'intox. Si on tombe contre Bourgoin, Tuber, c'est un peu le même genre. Dans le registre Filou, il est pas mal aussi.
Ah oui, mais oui, bien sûr, mais c'est des personnes qui ont déjà 15 ou 20 ans de pratique, donc ils savent jouer de tous les... leurs atouts, mais bon, après, voilà, après, il ne sera pas sur le terrain, ce sera un contexte différent. Après, on va pas focaliser sur tel et tel. Je vais surtout pas parler de Richard Hill, surtout pas parler de Tuber, je vais juste faire en sorte de parler de leur équipe et de jouer le rugby qu'on est capable de jouer quand on fait les choses dans l'ordre. Donc, ben, voilà, hein, c'est. Ça, on n'y est pas encore. Hein. Il nous reste encore un peu de temps à réfléchir à tout ça. On a encore des étapes. Je ne veux pas griller les étapes. Je ne veux pas que les joueurs y croient que dans cette interview, on ne parle pas de Normande. Parce que la base, c'est de passer, franchir les étapes l'une après les autres. Donc voilà, il faut rester concentré. Il ne faut pas se mettre en danger. Parce que mentalement, ça peut vite tourner. Je sais comment ça peut réagir. De journaux, ça part en saucisse. Donc, il faut rester concentré sur le match à venir. Et puis après, on fera le point.
Puis Marmande, tout le monde parle d'un match référence. Mais c'était quand même compliqué. La première mi-temps, c'était assez serré. Il avait fallu s'y filer.
Ah oui, la première, oui, à Marmande, ça avait été quand même notre match un peu déclic. Ça avait été un match compliqué, il avait fait chaud, il y avait du rythme, ça avait été un très beau match, ça nous avait fait quand même, ça nous avait mis un peu dans le bon sens du rail.
C'était après Anglette en plus.
C'était après Anglette. Ouais. Donc c'était un bon match où on avait bien réagi, donc j'étais très content de la prestation des gars. Mais maintenant, je pense qu'Anglette, Marmande, ils vont s'en rappeler, ils vont venir ici un peu, sûrement un peu énervés, donc. À nous de. Bon, on les a bien préparés, mais à continuer à bien se préparer pour être prêt à faire un bon match et prendre un peu de plaisir. Quoi, voilà.
L'infirmerie, elle se vide. On voit Romain Casals qui revient, Louis de Krop qui est sur le pré. Ça désamplit un peu.
Mais ouais, ça se joue à rien. Hein. Ce matin, on disait que l'infirmerie était vide. Il y avait Ruslan Boquerou qui a une hernie qui est sortie dans le lot, donc lui qui va être un peu emmerdé pendant quelques temps. On n'avait qu'un blessé. Et puis là, dans l'entraînement de ce matin, on a Samuel Navarro qui s'est bloqué le dos et Alfie Mafi qui a une pointe à la cuisse. Donc voilà, on est passé de 0 à 3 en une semaine, en 5 jours. Donc voilà, c'est toujours les vases communicants. Bon, c'est pas de grosses blessures, hormis le Russe qui va être sûrement un peu gêné avec ça. Mais voilà, il faut que le staff médical continue à bien bosser comme il le fait. Et le joueur est sérieux, ça devrait le faire.
Une petite question pour un peu, on va dire, enlever tous les fantasmes. Son Cormenia a été un peu annoncé par des médias, un peu déjà signé ailleurs et à Bayonne, pour ne pas se le cacher. On voit qu'il joue moins pour le moment. C'est une relation de cause à effet ou alors c'est que sa cheville qui est en délicatesse, tu le ménages?
Non. Soit on avait fait un bon match à Bagnères. Et là, à Bagnères, il s'est fait mal à la cheville, mais la semaine d'après, c'était une semaine off. Il n'est pas venu de la semaine d'entraînement, il était avec une grosse grippe scotchée au lit. Donc de ce fait, il y a des joueurs qui se sont entraînés toute la semaine. Je ne pouvais pas le mettre. Alors, j'essaye de respecter celui qui s'entraîne, il joue. Donc il ne s'était pas entraîné, il n'a pas joué. Mais là, ce week-end, il est remplaçant. Et puis après, à lui de continuer à faire des bons matchs et de rendre au club ce qui est en train de lui arriver, c'est-à-dire aller jouer dans un grand club. Et rendre au club jusqu'au 30 juin ce qui lui doit un peu au club.
Ouais, donc c'est réglé, quoi, a priori. Et puis le club avait fait une autre proposition, il est apparemment.
Non, mais après, voilà, le but, c'est ça, hein, quand t'es joueur, c'est d'aller jouer dans un club un peu au-dessus tout le temps. Donc, je pense que si on avait eu le maintien, la montée en Pro D2 aujourd'hui, j'aurais réussi à le garder. Aujourd'hui, il y avait. Yannick Ru, il n'a pas laissé non plus 6 mois d'attente, et il l'a oppressé. Et donc, il se devait de prendre une décision. Il n'a pas décidé d'aller là-bas. Moi, je suis content pour lui. Il mérite de jouer.
Ouais, c'est toi qui l'avais fait venir, en plus.
Oui, j'avais fait venir. Il a énormément travaillé. Il a bossé dur. Il a progressé. Et aujourd'hui, c'est... c'est un joueur important de notre équipe. Mais on va, voilà, c'est comme ça le rugby, on va essayer de le remplacer du mieux pour l'année prochaine. Et puis voilà.
T'as pas peur que les joueurs soient un peu perturbés par cette période un peu de mutation de... Parce qu'en fait, ils vont vouloir proposer des contrats de pro D2. Cette année, il n'y a pas deux solutions, quoi, en fait.
Pour le moment, oui, on fait ça. Après, c'est eux qui ont leur destin en main. Hein, ouais. Parce que du coup,
sinon, tout est caduque, quoi. En fait, s'il n'y a pas de montée, tous les contrats sont dénoncés. Quoi, en fait.
C'est ça. Mais bon, après, voilà, on n'a rien sans rien. Ils le savent bien, c'est des compétiteurs. Ça va peut-être leur mettre une petite pression supplémentaire qui fera qu'ils auront encore plus besoin d'aller la chercher que des clubs comme Rouen qui ont anticipé des contrats 3 ans. Mmh. Et nous, on va aller se chercher la montée et pour valider une année de contrat supplémentaire. Donc voilà, je trouve que le challenge vaut le coup, est excitant.
On a vu aussi dans la presse par ricochet que l'internat de Florence, qui est une signe maman de Nagirci, pour ne pas le citer, avait été approché par Albi. Ça fait partie peut-être aussi du fait que s'il n'y a pas de montée, peut-être qu'il faudra avoir un autre modèle. Toi, tu t'inscris, s'il n'y a pas de montée dans la continuité Albi, ou le fait de rester Albi s'inscrit pour toi avec indéniablement la Pro D2?
Non, mais j'ai été clair avec les joueurs, j'ai été clair avec la direction du club. Et ma condition, moi j'ai signé pour remonter le club en Pro D2, on travaille dur pour y arriver. Bon, si on n'y arrive pas, je le prendrai comme un gros échec personnel parce que je sais qu'on a le groupe pour le faire. Et donc je laisserai ma place à l'issue de ce mois de juin, mais je ne l'ai pas encore envisagé. Hein. Il y a des bruits qui courent beaucoup sur moi, j'ai rencontré personne. Je suis, comme j'ai dit aux joueurs, je suis à fond avec eux. Il y a des rumeurs, mais pas plus. Et pour le moment, je suis à 100% avec eux jusqu'à la fin de la saison. Et puis, en espérant que ça se passe bien. Si ça se passe pas bien, je patienterai de trouver plus tard. Mais je n'ai pas envisagé du tout aller chercher des plans B, anticiper. Non, je suis à fond avec eux.
Après, les rumeurs, c'est comme le pollen au printemps, c'est de saison.
Voilà, c'est ça. Il faut faire gaffe à l'allergie, c'est tout.
Allez, dernière question, Marmande. Les clés du match pour toi, le mot d'ordre?
Les clés du match, c'est d'arriver à tenir séquences longues un peu dans leur camp et sortir des ballons rapides. Mais bon, voilà, c'est la clé du match pour Marmande, mais souvent la clé des matchs. Quoi, voilà.
Merci Arnaud.
Allez, merci.
Alors, un Arnaud Mella qui a été très prolixe dans cette interview, puisque bon, il nous a donné son ressenti sur les probables et futurs adversaires du SCA en phase finale et en quart de finale, parce qu'on va pas se projeter sur les demi avant d'avoir passé les quarts. Mettons pas la charrue avant les bœufs, comme l'a dit Arnaud Mella très justement. Il a bien sûr aussi jaugé cet adversaire, ce Marmande, qui risque d'être redoutable, parce que comme on le disait à l'introduction de cette émission, qui vient chercher des gros points pour la qualification en du manoir. Alors pour certains, le du manoir, c'est une consolante, mais pour d'autres clubs, les petits clubs amateurs, le du manoir, c'est leur phase finale à eux, et ça revêt une importance capitale, entre autres financière, parce qu'une phase finale, ça permet aussi de remplir les stades, de faire un peu marcher la boutique. Autre information assez intéressante donnée par Arnaud Mella, bon, outre l'infirmerie, on va pas redisséquer ce qui se passe à l'infirmerie, parce qu'on souhaite quand même un très très bon rétablissement à Rusyn Boukirou, qui a de nouveau des soucis avec son dos, en espérant qu'il soit d'attaque pour les phases finales. C'est la signature de son Cormenier, quasi maintenant officielle, à Bayonne. Alors, on va féliciter bien sûr Swan, et c'est une belle promotion pour ce jeune qui a la vingtaine tout juste, il a 22 ans, son Cormenier, donc c'est quand même une très très belle promotion pour ce jeune pilier en devenir qui va pouvoir évoluer sous les ordres de Yannick Bru, quelqu'un qui, dans le milieu des lignes avant, ça parle, même dans le milieu du rugby, l'ancien coach adjoint de Guy Noves en équipe de France. Donc bon, c'est des noms clinquants. Bayonne, c'est un mythe de rugby, donc Swan, on peut aussi comprendre son choix de continuer sa progression linéaire, et on espère que si cette signature est officialisée, ce qui, d'après ce qu'on a compris, ne va pas tarder, mais on espère bon vent à Swan et qu'il réussisse sous une nouvelle couleur au Pays Basque. Autre information, Arnaud Mella, pour l'instant, il est au Sporting, et bien au Sporting. Il n'a pas de plan B, comme vous avez pu l'entendre. Il est focalisé, il est focus, comme on dit souvent au Max Sport, sur cette Pro D2 qui manque énormément à la ville, qui manque aux joueurs, qui manque aussi pour faire vibrer ce stadium qui sonne souvent creux, malheureusement, et c'est une tristesse absolue de le voir aussi creux. Mais bon, on a vu contre Anglet qui a une petite effervescence qui est en train de peut-être remonter, et on espère que dès demain, on en verra les fruits. Donc Arnaud Mella est toujours au SCA. Les rumeurs de nos confrères de la Dépêche sur le potentiel intérêt d'Albi et sur le nouveau entraîneur de Marmande pour la saison prochaine, Najirsi, apparemment sont peu ou pas fondées. Et puis il y en avait une autre rumeur, c'était Arnaud Vercruis, l'actuel coach du SRA, du Stade Rodez Aveyron, qui était vraiment murmuré, supputé de plus en plus fort dans la cité épiscopale. Et nous, on a même pu le voir sur le site Le Max Sport, où on a vu qu'un interview qu'on avait réalisé d'Arnaud Vercruis il y a de cela un bon mois, et bien, depuis cette semaine, il n'arrête pas d'avoir des clics. Alors que bon, l'interview était un peu passée aux oubliettes, on a vu que tout d'un coup, subitement, il y avait un intérêt pour cette interview d'Arnaud Vercruis, sûrement les Albigeois qui voulaient savoir à qui ils avaient affaire. Alors, Arnaud Vercruis, on l'a au téléphone souvent pour des interviews, pour avoir des réactions après match. Donc bien sûr, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a fait? On a pris notre petit téléphone au Max Sport, avant de dire des bêtises, et on a appelé le premier concerné. Et bien Arnaud Vercruis a été catégorique. Il n'y a pas la moindre véracité dans toutes ces rumeurs. Et, il n'a été contacté ni par les dirigeants du FCA, ni recommandé par Arnaud Mella, ni par une autre personne. Pour l'instant, il est deux pieds ancrés en terre aveyronnaise, chez nos meilleurs ennemis, comme on dit, et nos voisins, nos cousins, nos frères aveyronnais. Et à l'heure où on parle actuellement, ben, il est très bien au SRA et il ne compte pas venir au Sporting, mis à part un spectateur, chose qu'il fait quand il y a le temps. On l'a déjà eu vu dans les travaux du stadium pour venir voir un peu ce qui se passe à Albi, mais mis à part venir voir du rugby interalbigeoise pour l'instant, mais il n'y a rien de concret. Donc voilà, fermez le banc, la rumeur Arnaud Vercruis est évacuée. On verra les prochaines qui sortiront, on essaiera de voir qu'est-ce qui est vrai, qui est faux. Après, comme on l'a dit, si le Sporting prospecte, ça peut être aussi compris que les dirigeants prospectent en cas de malheur et de non-remontée, parce que nous, en terre albigeoise, une non-remontée serait un grave malheur, voire un péril, puisque ça mettrait sûrement fin au professionnalisme en terre albigeoise. Donc, on va attendre de voir déjà ce que font les gars sur le terrain. Est-ce qu'ils vont aller nous chercher cette Pro D2? Et puis après, on pourra supputer, on pourra lancer des rumeurs tant qu'on voudra sur l'avenir et la suite que donnera le club jaune et noir. Alors comme on le disait, il y a match samedi. Les joueurs d'abord, il va falloir qu'ils aillent se chercher cette Pro D2. Avant d'aller en Pro D2, il faudra passer les phases finales. Et avant de passer les phases finales, il faut d'abord finir premier de cette poule. Puisque oui, Albi est qualifié depuis samedi dernier, c'est officiel, mais encore, la première place n'est pas dans la poche. Il y a des Lusiens que le Sporting Club Albigeois rencontrera la prochaine journée, dans deux semaines, au Pavillon Bleu à Saint-Jean-de-Luz, qui ne sont qu'à 10 points. 10 points avec 4 matchs, ils peuvent encore revenir et passer devant. Donc pour Albi, objectif 5 points, voire 4 points à minima ce week-end, sans faire offense au Marmandais. Et donc on s'est rapproché d'un des joueurs qui est devenu un des cadres de ce groupe, Laurent Magnaval, alias Lolo pour certains, ou alias Astérix pour d'autres. Allez, on l'écoute dans notre interview, grand format. Nous avons l'honneur et le plaisir d'avoir un des gladiateurs jaune et noir, Laurent Magnaval. Laurent, bonjour.
Bonjour.
Alors Laurent, cette saison 2018-2019 pour toi n'a pas commencé sous les meilleurs auspices, parce que tu étais blessé, tu avais un problème de ligament à l'épaule qui s'était passé lors de l'ultime match, et ce malheureux match retour face à Rouen. Petit à petit, tu as ressoudé, on va dire, les morceaux pour revenir pleine bourre pour le Money Time. Comment se passe maintenant cette fin de saison pour toi?
Je repris déjà depuis le mois de décembre dernier, donc ça fait maintenant 4 mois. pas énormément de matchs puisque beaucoup de pauses dans ce championnat de Fédéral Lune, mais tout va pour le mieux, donc nickel. L'épaule tient bien, je me sens en forme, l'équipe reste sur de bons résultats, donc on est sur une dynamique qui est positive. Tout va bien pour le moment.
Oui, parce que contre Bagnères et contre Anglet, ça a envoyé plein fer du jeu. Vous avez un peu marché sur ces deux équipes qui avaient, pour Bagnères un objectif maintien et pour Anglet qui avait un brin envie de refaire trébucher le Sporting. Mais ils sont peut-être pas venus, Anglet, avec le meilleur état d'esprit, puisque on les a vus en seconde mi-temps, ils étaient un peu dilettantes.
Alors, si je suis pour moi d'analyser ça, ce qui est sûr, c'est que... on a su faire ce qu'il fallait pour prendre le match par le bon bout et au final ne pas laisser espérer aussi bien que ça ces équipes de Bagnères dans un match à l'extérieur et cette équipe d'Anglette à domicile le week-end dernier. Donc c'est plutôt des bons résultats. Ce qui est sûr, c'est qu'on avait des consignes qui étaient claires, qu'on a réussi à les respecter et qu'on est sur des résultats qui sont très positifs au cours de ces deux derniers matchs, quoi.
Alors, comme l'a dit l'ensemble de la presse, vous êtes montré digne de favoris face à Anglette. Alors, ça même pas une miette, même pas un point, mais en tant que joueur, quand on est dans un match comme ça, quand on voit qu'en face, il y a une équipe qui joue pas trop le jeu, comment on fait pour rester en son match, pour garder les consignes et pas être tiré vers le bas par cette équipe?
Mais déjà, on a un objectif clair, c'est de nous, on se doit de maintenir notre première place du groupe. Donc, déjà, premièrement, c'est de préparer les matchs de la meilleure des façons. On avait des consignes qui étaient claires, je l'ai déjà dit. Donc, du coup, les respecter. Le match s'est bien passé. C'est-à-dire qu'avec un jeu très, très, très clair et très marqué, on a réussi à sur nos quelques possessions marquer des points. Ensuite, c'est surtout une volonté de construire le match et de rester concentré sur notre objectif qui est, je le répète, maintenir la première place de ce groupe et peut-être un peu plus loin la préparation de ces phases finales qui est, on va le cacher, un objectif qui est affiché depuis début de saison, qui est un objectif qui est clair et affiché depuis début de saison. Donc, du coup, ça paraît difficile de ne pas commencer à y songer, quoi.
Oui, et puis ce qui était très intéressant dans ce match contre Anglet, voire même aussi le match contre Bagnères de Bigorre, on avait déjà vu des matchs du Sporting avec des scores fleuves, entre autres un des premiers matchs à domicile contre Nafarroa, mais il y a eu beaucoup d'essais sur des groupés pénétrants. Le Sporting avait un peu axé sur le point faible des Nafartars. Là, c'est tous les essais quasiment, à part un, étaient dans le jeu, étaient super bien construits, donc on voit que la mayonnaise est en train de prendre dans le jeu.
Ce qui est sûr, c'est qu'on avance, qu'on progresse dans la saison. C'est un peu pareil pour toutes les équipes, j'imagine. Le rugby, c'est un sport qui est à la fois simple et compliqué. Exactement, la mayonnaise prend, mais bon, c'est le fruit du travail de la saison. Donc, ça paraît logique et cohérent que ces matchs de fin de saison, avec un peu le retour du soleil et justement, le travail qui arrive, le travail qui commence à porter ses fruits, de voir des rencontres peut-être plus abouties d'un point de vue offensif et avec notamment qu'on puisse asseoir notre assise offensive et faire vivre ce ballon, quoi.
Alors, je vais peut-être dire un lieu quand même. Tu penses que ces deux revers, voire ces deux gifles face à Nafarroa et Oloron ont été des planches de salut pour le Sporting pour se remettre un peu droit dans les bottes?
Très honnêtement, si on avait pu les éviter, on les aurait évités. Ce qui est sûr, c'est que maintenant, ça fait partie de notre histoire, de l'histoire de notre saison. On construit beaucoup sur de la défaite. Je pense qu'on aurait pu les éviter et qu'on aurait construit aussi en les évitant. Mais ce qui est sûr, c'est qu'elles sont là, qu'elles nous ont permis de nous remettre peut-être encore plus en question que ce qu'on remettait en question. À tous les niveaux et maintenant ce qui s'est passé, on verra. Maintenant ça paraît évident au vu des deux derniers résultats. Maintenant c'est la fin de saison qui dira si elles ont été bénéfiques ou pas, hein. Si on atteint la Pro D2 et nous aurons servi. Si on l'atteint pas, ça aurait été un écueil dans lequel on n'aura pas été capable d'en apprendre les leçons, quoi.
Alors maintenant que le Sporting est officiellement qualifié, bon, c'est dans la logique des choses, et puis depuis le début de la saison, au vu de la poule, tout le monde s'attendait à ce que le Sporting soit qualifié pour les phases finales. Ces phases finales qui approchent, j'imagine qu'il y a la tension qui doit monter, il y a l'adrénaline qui doit commencer à piquer un petit peu. Qu'est-ce que tu penses des autres équipes, et quelle est pour toi l'équipe que tu redoutes le plus, qui te fait un peu trembler?
Ce qui est sûr, c'est qu'il y a, si on prend un peu de recul sur toutes les poules, on arrive à discerner un peu depuis le début de saison les quatre premières poules. Plus ou moins, il y a une poule, la quatrième poule là, autour de Nice, la poule de Dijon, Bourgoin, où c'est un peu plus indécis. Par contre, c'est vrai qu'il y a Rouen, Roval qui lui reste. Sont les vrais favoris de ces phases finales, c'est-à-dire ils sont invaincus, que ce soit Orval ou Rouen, ils écrasent toutes les équipes, et ça tous les week-ends, même sur les matchs d'hiver à l'extérieur un peu serrés. On a eu Rouen, je crois que Rouen a encore gagné contre Cognac la semaine dernière d'un point, mais bon, c'est les résultats, c'est gagné quoi. Donc du coup, ces deux équipes semblent favorites. Maintenant nous, dans notre course aux phases finales, il faut absolument maintenir notre place de premier de poule. Ce qui est sûr, c'est qu'on les rattrape. Il y a de grandes chances qu'on les rattrapera pas. On les rattrapera pas. Donc, peu importe. Si on vient à les rencontrer, dans tous les cas, ils seront inévitables. Donc, que ce soit Rouen ou Roval, sincèrement, peu m'importe. Il faudra en gagner un pour toucher la Pro D2. Donc, peu m'importe.
Et puis, en cas de qualification en demi-finale, il faudra déjà d'abord passer l'écart, et puisque il y aura des morceaux, et puis il y a toujours des équipes un peu poil à gratter qu'on ne voit pas venir, et qui, un peu à l'image du CO l'année dernière, en top 14, qu'on n'a pas vu venir, et qui est venu moucher tout le monde.
Ce qui est sûr, c'est que tu me posais la question sur les favoris, lesquels me faisaient la plus trembler, mais une chose est sûre, c'est que nous, il faut qu'on maintienne notre place de premier de poule et évidemment passer un quart de finale. Donc il y a beaucoup de conditions et beaucoup d'inconnus avant de rencontrer une de ces deux équipes. Ce qui est sûr, c'est qu'il faut avancer pas après pas et ne pas s'emballer. Enfin, nous, on n'est pas dans la peau du favori. On a connu quelques revers cette saison. On l'a dit tout à l'heure, est-ce qu'ils vont nous permettre, j'en suis convaincu, mais est-ce qu'ils vont nous permettre de réfléchir et de progresser et d'en apprendre des leçons? Certainement. Maintenant, il va falloir faire les choses les unes après les autres, quoi.
Oui, et puis, chez les supporters, il commence à y avoir un fantasme, mais l'objectif de certains supporters, ce serait de re-rencontrer Rouen en demi-finale, comme l'an passé, avec sûrement un tableau inversé, une réception à Albi et un retour à Rouen, et aller leur botter l'arrière-train aux Rouennais, ça aurait de la gueule.
Ouais, mais tu l'as dit, ça reste un fantasme. Restons cartésiens et concentrons-nous d'abord sur notre fin de saison et sur un quart final dans un premier temps. Dans un premier temps, quoi. Donc avant de... Évidemment que c'est plaisant d'y penser, mais concentrons-nous d'abord sur les premiers objectifs, quoi.
Sur le factuel. Alors pour revenir au factuel, et deux dernières petites questions. Déjà, là, le menu du Sporting va être quand même assez copieux, parce que ce soit Marmande, Lavoir ou Tyrosse, c'est des équipes qui vont se battre pour avoir un accès site en du manoir, donc ils ne pourront pas lâcher le match, un peu comme Anglet. Donc on imagine qu'ils vont vous proposer un vrai défi physique à toi et à tous tes copains du Sporting et du club jaune et noir. Et puis après, il y a ce match à Saint-Jean-de-Luz qui fait déjà saliver, parce qu'il va avoir un petit goût de phase finale avant l'heure.
Oui, certainement. Déjà, il y a... C'est vrai que ça paraît... L'objectif de phase finale, on l'a un peu, c'est sûr, hein, on va pas se mentir, on l'a quelque part dans le coin de la tête, mais c'est vrai que, tu l'as dit, concentrons-nous sur du factuel. D'abord la réception de Marmande ce week-end, ensuite il y a ce déplacement à Saint-Jean-de-Luz, la réception de Lavoir et un dernier déplacement à Tyrosse, donc pas mal de d'occasions et de chances pour nous de mettre notre jeu en place et d'essayer de maintenir encore une fois cette première place dans cette poule.
Allez, maintenant on va passer aussi un peu sur ton poste de demi de mêlée, un poste qui est primordial au rugby, où tu es aussi très lié avec le demi d'ouverture, que ce soit Jérémy Russell ou Kevin Boulogne, comment tu appréhendes les matchs? Est-ce qu'ils ont des jeux différents? Est-ce que c'est pas du tout la même approche? Et pareil, avec Thibaut Bismann, tous les deux, vous partagez le poste de demi de mêlée et vous avez des caractéristiques assez différentes. Toi, je te qualifie souvent de roublard, de plus roublard, et Thibaut un peu plus d'autoritaire, de plus, on va dire, guerrier. Comment tu appréhendes tout ça? Après, je peux me tromper aussi sur la qualification.
Complètement. Bah, on le sait, c'est vrai que le staff a, je pense, la chance d'avoir deux profils différents. Maintenant, à eux de les utiliser, c'est ce qu'ils essayent de faire, j'ai l'impression. Nous, on est concentrés, que ce soit Thibaut ou moi, sur nos objectifs et sur le jeu de l'équipe. On sait aussi se montrer complice lorsqu'on a associé. On a été plusieurs fois associés à charnière tous les deux aussi, et ça s'est super bien passé. Donc nous, on travaille évidemment pour le bien de l'équipe. Et après, qu'est-ce qu'il en soit des charnières, évidemment, chacun, que ce soit Jérémy ou Kevin, chacun a ses spécificités. Mais l'équipe est en progrès, l'équipe est en progrès évident. Tu m'as parlé des derniers résultats, que ce soit Bagnères ou Anglette ce week-end, et au final c'est à chaque fois des charnières différentes. Donc ce qui est sûr c'est qu'on se tire tous vers le haut et que le jeu de l'équipe s'en fait ressentir puisqu'on est sur deux résultats convaincants, quoi.
Allez, l'ultime question. Hier, Arnaud Mella nous parlait encore en conférence de presse de votre objectif commun et collectif, et depuis le début de saison il n'est pas caché, il est affiché haut et fort, c'est remonter en Pro D2. On imagine que pour vos joueurs ça vous fait rêver. Et puis il y a notre algorithme, parce qu'on le sait, s'il n'y a pas de montée en Pro D2 au Sporting, malheureusement le professionnalisme risque de s'arrêter. Et Arnaud disait que c'était aussi un levier de motivation. Si vous voulez continuer au sein de la Maison Jaune et Noire à vivre dans le professionnalisme, il faut impérativement aller chercher cette montée, cette accession en Pro D2. Est-ce que c'est une épée de Damoclès qui peut inhiber, ou alors c'est un vrai levier de motivation?
C'est clair que l'enjeu est clair. On est au courant des règles depuis le début. Moi je le vois plutôt comme on serait particulièrement con de le vivre comme une pression supplémentaire, et à nous de nous débrouiller, à nous et au staff de se débrouiller pour en faire un vrai levier de motivation et une vraie force. Force d'argument qui pèse dans notre jeu, quoi.
Ok, ben la réponse a le mérite d'être claire. On te remercie, Laurent, d'avoir pris un peu de temps sur ta journée de repos pour venir répondre à nos questions. On te souhaite samedi face à Marmande de faire une belle entrée, puisque bon, tu commenceras sur le banc, mais a priori tu iras fouler la pelouse, et qui sait, peut-être d'aller nous marquer un petit essai dont tu as la recette.
J'espère.
Allez, à samedi, Laurent.
Merci, au revoir.
Au revoir. Allez, après avoir écouté Laurent Magnaval, un des deux demi de mêlée, enfin un des trois même avec Martin Doan, demi de mêlée du Sporting Club Ébigeois, on va vous donner maintenant le goût, voire la couleur de ce week-end de Fédéral 1, que ce soit en poule 2, en poule 1, en poule 3 ou en poule 4, avec quelques matchs qui vaudront leur pesant de cacahuète. Tout d'abord, en poule 1, il va y avoir un Union Cognac Saint-Jean-d'Angély SA Trélissacois entre outsider pour la qualification au play-off, qui va sûrement frotter et qui risque d'être un match assez enlevé, malheur au perdant. Autre match qui risque d'être très intéressant, c'est Dax, qui actuellement est en position de qualifiable avec les Rouennais, qui se déplaceront à Bergerac, mais qui sont maintenant quasiment en roue libre et ils sont qualifiés. Ils ont quasiment la seconde passe nationale d'assurer, donc les Rouennais, on va pour une fois moins s'en occuper, on va regarder Dax qui va recevoir plutôt le Stade Niortais, une équipe, elle, le Stade Niortais, qui va essayer de ramener des gros points pour se qualifier en challenge du manoir. Donc, en poule 2, bien sûr, il y a Sporting Club Albigeois contre l'Union Sportive Marmandaise, le premier contre le sixième. Un peu comme Dax à Vignor, une équipe qui veut assurer sa première place pour les playoffs et pour le classement national, Albi avec une équipe marmande qui va essayer d'arracher au forceps dans les dernières lignes droites la qualification en du manoir. Autre match qui va avoir son pesant d'or, hein, Anglette, qui j'espère là va se dépouiller, parce que s'ils ne se dépouillent pas, s'ils font la même partition qu'Albi, je pense qu'ils prendront les tomates, parce que là ils sont à la maison, enfin pas tout à fait, parce que c'est à Jean d'Auger à Bayonne, pour recevoir Saint-Jean-de-Luz dans un derby qui risque d'être haut en couleur. Donc je conseille vivement à la bande à Fouquet ce week-end de s'y filer, parce que là je pense qu'il y aura un peu moins de compatissance de la part de compassion de la part de leur aficionados. Autre match qu'on a sélectionné dans la poule 2 est un FC Oloron Stade Tarbes Pyrénées Rugby qui va avoir une bonne odeur de derby caliente. Après, en poule 3, on se focalisera bien sûr sur Grouillé-Rodez, le derby de l'ex-région Midi-Pyrénées, et bien sûr sur un autre derby qui va être chaud bouillant, Aubenas, dans son antre du Gradu, dans son chaudron du Gradu, qui va recevoir Roval, Valence, Romont, Drôme, Rugby, avec un petit arrière-goût de revanche pour les gars d'Aubenas qui avaient été un brin chambré par les supporters de Valence quand ils avaient pris une fessée cunue à l'aller. Autre match qui va être très intéressant, Blagnac Sporting Club Rugby face au Rugby Club Nîmes-Gard. Blagnac quasiment assuré d'être qualifié en play-off. Nîmes a fait un faux pas à la maison face à Aubenas sous les yeux de l'équipe TV, de la chaîne L'Équipe, et donc va vouloir se rattraper. Dimanche, ça risque aussi d'être un match assez intéressant à suivre. En poule 4, il va y avoir le match qu'il va falloir suivre pour tout Albigeois qui se mérite, c'est-à-dire Stade Niçois, Stade Dijon-Côte d'Or. Le premier contre le troisième, deux équipes qui peuvent encore finir, les trois premières places qui peuvent encore se qualifier. Pour l'instant, Dijon a quelques points d'avance, mais Nice n'a pas lâché le morceau, tout comme Bourgoin, et Bourgoin qui va se déplacer à l'US Seinoise, une équipe qui sera dans un impératif de ramasser et de glaner des points si elle veut se sauver. Donc les jalons sont posés, on va dire, pour cette 19e journée de Fédéral 1, avec quelques matchs qu'il va falloir suivre du coin de l'œil, surtout ce stade niçois, stade dijonnais, qui peut conditionner le futur du SCA, puisque actuellement ce serait une des équipes de cette poule qui pourrait rencontrer le SCA. Allez, pour finir, on va faire un petit point sur les supporters. Samedi dernier, ils étaient déjà une trentaine, voire quasiment une quarantaine à vouloir faire le déplacement à Saint-Jean-de-Luz en bus. Mais on vous invite à vous rapprocher du comité d'animation des supporters et de Christiane Quentin ou de Reynal Brunet pour aller pousser dans les rucks, soutenir dans les rucks le SCA pour ce match qui risque d'être capital pour se mettre définitivement la première place de cette poule de Fédéral 1 dans la poche. Allez, si vous voulez plus d'informations, on vous donne rendez-vous à la Bodega samedi soir. Vous aurez tous les éléments pour faire ce fabuleux dépassement en terre basque, avec un départ le dimanche matin à 7h du matin pour la somme de 30 euros. Et puis Reynal Brunet ou Christine ou d'autres bénévoles de ce pan du club se feront une joie de vous donner tous les éléments. Rendez-vous maintenant samedi sur nos antennes pour suivre le match, et puis peut-être à la fin du match pour vibrer au doux son, qui sait, de l'Encantada en fin de match, en cas de victoire. Allez, on va changer de registre maintenant avec nos breaking news. Eh bien, breaking news, d'abord du foot avec des RTT, des vacances forcées ou obligées pour les filles SPT qui n'iront pas se déplacer à les Metz, puisque le club lorrain a annoncé que, soi-disant, je dis bien soi-disant, les terrains étaient impraticables. C'est un peu bizarre, ça tombe concomitamment avec une ribambelle de blessures. Bon, comme on nous a dit du côté du club rouge et jaune, ça fait partie du jeu. Mais c'est quand même malheureux parce que bon, les clubs comme SPT engagent de gros frais pour faire le déplacement. Et quand on prévient le club un vendredi à midi, et ben, on se retrouve souvent avec des billets d'avion ou des billets de train sur le palto. Mais bon, ça sera sûrement prêté pour un rendu. Allez, maintenant on va passer au vélo. « cyclisme. Donc le Tarn ouvre sa saison et notre ami Le Borgne nous a fait une sympathique chronique pour étayer cette ouverture de la saison cycliste dans le Tarn. Alors le Grand Prix cycliste d'ouverture arrive à Carlus. C'est le cyclisme tarnais qui ouvre enfin sa saison. Le vélo est un sport de tradition. L'hiver est consacré au sous-bois avec la discipline du cyclo-cross, laquelle prépare souvent les coureurs lors de l'inactivité routière à parfaire la condition physique pour la reprise sur route. Le week-end dernier, donc, on avait fait le point sur la course du Grand Prix Pierre Pinel avec 4 premières places pour l'AVCA Aix, bis repetita pour la deuxième équipe aixoise au même moment lors du Grand Prix Montouroux. Le dimanche 10 mars, on avait vu que la commune de Carlus, qui se trouve aux portes d'Albi, va accueillir le Grand Prix d'ouverture Reva dans une épreuve toute catégorie organisée sous la bannière du club d'Albi Vélosport qui réunira 104 coureurs malgré la concurrence de la classique Bordeaux 7. Cette épreuve courira à la distance 115 km 200, soit un circuit de 12,8 km à parcourir 9 fois. Cette course est un tremplin pour accéder au professionnalisme. La seule lecture du palmarès sur ces dernières éditions donne un aperçu du niveau. Les Girondins Quentin Paché, actuellement de l'équipe Vital Concept, l'emporte en 2012 devant le Toulouse Anthony Pérez, qui porte maintenant les couleurs de la Cofidis, lequel lui, Anthony Pérez, l'emportera en 2013 et 2014. Stéphane Pouyès est revenu amateur en 2015, ne manquera pas d'inscrire son nom au terme de cette saison-là. Le Bigeois repassera professionnel dans l'équipe de l'armée de terre l'année suivante, alors que le Bigourdan Bruno Armirail, aujourd'hui chez Groupama FDJ, en fera de même la victoire en 2017. Le dernier vainqueur en date, Jean Goubert, porte maintenant les couleurs de l'OCF, de l'Occitan Cyclisme Formation, et il sera un naturel candidat à sa succession. Mais attention, il faudra compter sur l'homme en forme du moment, Kevin Besson, qui lui aussi fait partie de l'OCF et qui a coché cette édition 2019 dans son répertoire. Alors, vous allez me dire, le Grand Prix d'ouverture Reva, Kezako, cette course porte un nom pour le moins curieux. Reva, c'est le nom d'une entreprise, et c'est le moment de rendre hommage à l'entreprise qui sponsorise cette épreuve depuis plusieurs saisons, et surtout à son dirigeant principal, monsieur Jean-Marie Alberge. Cet homme d'affaires est discret, humaniste, défenseur de son territoire, héritier d'une famille d'autocaristes originaire à Saint-Jury, bien connu des Alligeois, a repris l'entreprise familiale car Alberge. Mais l'entreprise maintenant a pris un virage industriel avec l'arrivée de Jean-Marie Alberge commente et qui l'oriente vers l'entretien, la réparation et la vente des bus et autocars. Mais maintenant, cette entreprise est présente dans le grand sud-ouest des Landes à l'Aude est connu en Europe pour son savoir-faire et son éthique. Donc, Jean-Marie Alberge, l'homme qui est à l'initiative de ce naming, on va dire, de la course Reva, il consacre une grande partie de son temps à soutenir les initiatives associatives et sportives, et c'est ça le bien plus important. Hein. Et il fut surtout un des administrateurs dévoués et désintéressés, puis vice-président du Sporting Club Albigeois. On y revient toujours. Il participera donc à l'essor du club en top 14 et à son maintien en Pro D2 durant plusieurs saisons avant de quitter le navire, lassé et fatigué par trop de différends internes en 2007, quelques jours après le président Cassanet qui va le suivre dans sa décision. Et puis on connaît la suite et la descente et pour l'instant le purgatoire en fédéral. Il ne manque jamais un match du Castres Olympique, mais depuis un an, il a pris des responsabilités aussi au Sporting Club Grouilletois et fait profiter à ce bastion historique de rugby de son expérience et de ses réseaux. Pour aller d'Albi, du SCA, à Grouillet, il faut passer par le village de Carlus. Mais Jean-Marie Alberge, sûrement, a été charmé par ces lieux et le circuit qui sera au menu des coureurs dimanche 10 mars a décidé d'accompagner Albi Vélosport dans la démarche de faire vivre une course cycliste de haut niveau. Anal Bijoux. Voilà la chronique de notre ami Le Borgne et qui a mis en avant Jean-Marie Alberge et la Reva. Pourquoi à Radio Albigeois on en fait un petit peu la promotion de ce naming? Parce que Jean-Marie Alberge, depuis le début du Maxport, a toujours été un fervent soutien du Maxport, que ce soit en tant que mécène ou en tant qu'auditeur, et on le salue. Sur ce Maxport touche à sa fin et sera réécoutable en podcast sur les réseaux sociaux et le www.lemaxport.com. www.radioalbiges.com ainsi que sur les ondes de Radio Albiges 95.4, 104.2 et le www.radioalbiges.com. Merci à mon ami Manu pour la technique malgré tous les vents contraires qui peuvent exister. Je vous donne rendez-vous demain 9 mars 2019 dès 18h45 pour suivre le choc entre le Sporting Club Albigeois et l'US Marmande. Pour les autres, rendez-vous mardi à midi pour le débrief. Allez, bon week-end sportif et à des chiasses.